Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. C'était Baba Kama, page 55, Daf Nun He. Bonne écoute et bon limoud.
Agil et Rabechia Baraba. Mipnema bedibrot acharonot lo nemar baem tov. Pourquoi est-ce que dans le premier décalogue, dans Parashat Yitro, le terme de tov, qui veut dire bon ou bonheur, n'a pas été mentionné? Ou bedibrot acharonot, alors que dans le dernier décalogue, dans Parashat Vaetranan, nemar baem tov, le terme de tov, bon ou bonheur, a été mentionné. En effet, concernant le commandement d'honorer les parents, la Torah conclut dans Vaetranan, leman yitavlar, afin que tu sois comblé de bonheur. Amarlo, Rabbi Chia Baraba a répondu à Rabbi Hanina ben Agil, ad shata shoaleni lama nemar baem tov, avant de me demander pourquoi est-ce que le terme de tov a été mentionné dans les derniers décalogues, dans Parashat Vaetranan, sha'aleni im nemar baem tov im lav. Pose-moi la question si le terme de tov a été employé dans le dernier décalogue ou non. She'eni yodea im nemar baem tov im lav. Parce que je ne sais même pas si le terme de tov a été employé dans le dernier décalogue ou non. En d'autres termes, je ne connais pas suffisamment les psukim de la Torah pour répondre à cette question, voir aussi le Pnei Yoshua. Question. Kalech etzel Rabbi Tanchum bar Hanilai. Va chez Rabbi Tanchum bar Hanilai, Shaya Ragil etzel Rabbi Yoshua ben Levi, qui se trouvait souvent auprès de Rabbi Yoshua ben Levi, Shaya Baki Be'agada, qui connaissait les enseignements des Chachamim, qui concernent notamment la morale. Azal Legabe. Alors Rabbi Hanina ben Agil est parti chez Rabbi Tanchum bar Hanilai. Et il lui a posé cette question. Pourquoi est-ce que dans le premier décalogue, le terme de Tov n'a pas été mentionné? Amarlo, Rabbi Tanchum bar Hanilai lui a répondu. Mimenu lo shamati. Je n'ai pas entendu la réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. Et là, kach amar li Shmuel bar Nachum, achi imo shel Rav Acha berabbi Hanina. D'Amrela, il y en a qui disent que c'était avi imo shel Rabbi Achi berabbi Hanina. La raison pour laquelle, dans le premier décalogue, le terme de Tov n'a pas été mentionné, ho'il vesofan li ishtaber, parce que les premières tables de la loi étaient destinées à être cassées. Alors la Gemara demande, Bechisofan Nishtaber Mayave, et même si les premières tables de la loi étaient destinées à être cassées, pourquoi est-ce que le terme de Tov ne pouvait pas être mentionné? La Gemara répond, Amar Ravashi, Chas Veshalom Paska Tovam Israël. Si le terme de Tov avait été mentionné dans le premier décalogue, alors après que les premières tables de la loi ont été cassées, le bonheur aurait Chas Veshalom disparu du clan Israël. Amar Rabbi Yoshua, Haroe Tet Bechalomo, celui qui voit la lettre tête dans son rêve, Siman Yafelo, c'est un bon présage. Alors la Gemara demande, Maitama, pourquoi il est Mamishum Dirtiv Tov? Si c'est parce que la lettre tête est la première lettre du mot Tov, qui veut dire bonheur. En d'autres termes donc, la lettre tête qu'il a vue dans son rêve est un présage de bonheur. Emma, on n'a qu'à dire au contraire que la lettre tête est un mauvais présage, parce que le pasouk dans Yeshaya Yudalet dit, dans une prophétie concernant la destruction du pays de Babel, Vetetetiha Bemetate Hashmed, et je la balayerai avec un balai de destruction. Il se peut donc que la lettre tête est un mauvais présage, faisant allusion à un balai de destruction. Dagmar répond, Chad Tet Kamrinan. Nous parlons d'un cas où cette personne n'a vu qu'un seul tête dans son rêve. Forcément, il ne s'agit pas d'un balai où ce sont deux têtes qui sont employées. Dagmar demande, Emma, peut-être que la lettre tête fait allusion au pasouk dans Echa Aleph, Tum Ata Beshuleha. Ce pasouk qui parle du clan Israël dit que l'impureté du clan Israël était visible sur les pans de ses habits. Il se peut donc, en d'autres termes, que la lettre tête est aussi un mauvais présage. L'Agma répond, tête bet kamrinan. Il s'agit d'un cas où cette personne a vu dans son rêve deux lettres, la lettre tête et la lettre bet. Forcément donc, il s'agit d'une allusion qu'un bonheur lui arrivera. L'Agma demande, Emma, peut-être que même s'il a vu les deux lettres tête et bet, cela fait allusion au pasouk dans Echa bet, Tav'u ba'aret she'areha. Ce pasouk parle de la ville de Yerushalayim. Ses portes ont été englouties par la terre. Il peut s'agir donc d'un mauvais présage. Et là, c'est pour cela que la Gemara se ravise et dit, même si cette personne n'a vu que la lettre tête dans son rêve, il s'agit quand même d'un bon présage. Ho'il ou patarbo hakatub letovat chila. C'est parce que la première fois que la lettre tête a été employée par la Torah, c'est pour exprimer le bon ou le bonheur. Shemi bereshit, parce qu'à partir du premier mot de la Torah, donc du mot Bereshit, Advayar Elokim et Haor, jusqu'au pasouk dans Bereshit Aleph, et que Baruch Hu vit que la lumière était bonne, l'octiv tête, la lettre tête, n'a pas été employée. C'est pour cela que nous dirons que la lettre tête est un bon présage. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Haroe Hesped Bechalomo, celui qui voit une oraison funèbre dans son rêve, cela veut dire que Chassou Alav Minashamaim, dans le ciel, ils ont eu pitié de lui, Upedaouhu, et l'ont délivré de malheur. La Gemara conclut là-dessus, Hanemi Lebertava, nous disons cela, que s'il a vu en écrit le mot de Hesped. Et cela, comme le Maharshal explique, le mot Hesped peut être une contraction de deux mots, Has et Pad. La lettre He pouvant être interchangée avec la lettre Ched, cela nous donne Has Pad. Has veut dire avoir pitié, et Pad veut dire délivrance. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Vechen Chaya Veof Kayotse Bahen. Et concernant tous les commandements ou les interdictions qui ont été énoncées dans la Mishnah, les animaux sauvages et les oiseaux sont aussi concernés par ceci. Notamment donc, les bêtes sauvages et les oiseaux sont concernés par l'interdiction de croiser deux sortes d'animaux. Amar Resh Lakish, Kan Shana Rebi. Ici, Rebi nous a enseigné, puisque finalement, il a inclus les oiseaux dans l'interdiction de croisement, que Tarnegol, Tavaz ou Passioni, le coq, le paon et la perdrix, qui l'aïm zébazé, se considéraient comme étant des mélanges, il sera donc interdit de les croiser. La Gemara demande, Pshita, c'est évident, puisqu'il s'agit de sortes différentes d'oiseaux. La Gemara répond, Amar Rav Chaviva, Mishum de Rabu Baade Adade, parce qu'en général, le coq, le paon et la perdrix grandissent ensemble. En Mahu de Tema Minchadu, on aurait pu penser qu'il s'agit d'une seule catégorie d'oiseaux, et donc, ils ne seraient pas concernés par l'interdiction de croiser les animaux. Kamash Malan, c'est pour cela que Resh Lakish nous précise que même le coq, le paon et la perdrix sont des sortes différentes, et donc il sera interdit de les croiser. Amar Shmuel, Avaz ve Avaz Abar, le canard et le canard sauvage, Kilaim Zebazé, sont considérés comme des mélanges. Il sera donc interdit de les croiser. En Matkifla, Rav Abar Rav Hanan a objecté, Maïtama, pourquoi est-ce que le canard domestique et le canard sauvage sont considérés comme deux sortes différentes et il est interdit de les croiser? Finalement, ils se ressemblent. Il est ma mishum de hay arir koué. Si tu dis que c'est parce que le bec de l'un de ces deux canards est long, vehay zutar koué, et le bec du second est plus court, et c'est pour cela que tu dis qu'il s'agit de deux sortes différentes. Et là, meata, si c'est ainsi, gamla parsa ve gamla taïa. Le chameau perse et le chameau arabe, dehay alim koué, dont le cou de l'un est gros, vehay katin koué, et dont le cou de l'autre est plus petit. Hachinami davu kilaim zebazé. Nous dirons aussi qu'ils seront considérés des mélanges et comme deux sortes différentes, il sera donc interdit de les croiser. C'est impossible. Et là, c'est pour cela que la Gemara dit que la raison pour laquelle le canard domestique et le canard sauvage sont considérés comme deux sortes différentes, c'est parce que Amar Abaye, Zebetsav Mibachutz, les testicules du canard sauvage sont visibles de l'extérieur, Veze Betsav Mibifnim, alors que les testicules du canard domestique se trouvent dans son corps, ils sont invisibles. Il s'agit donc de deux sortes différentes, il sera interdit de les croiser. Rav Papa Amar, Rav Papa donne une autre raison pourquoi le canard domestique et le canard sauvage sont deux sortes différentes. Il dit donc, Ha teuna chada beata beshichala, le canard sauvage ne conçoit qu'un seul œuf à la fois, il ne conçoit donc pas un deuxième œuf avant d'avoir pondu le premier. Veha teuna kama beata beshichala, alors que le canard domestique conçoit plusieurs œufs à la fois qu'il pond au fur et à mesure. Il s'agit donc de deux sortes différentes, il sera donc interdit de les croiser. Amar Rabbi Yirmiya, Amar Resh Lakish, Amar Bia Shnei Minim Shebayam, celui qui croise deux sortes de poissons ou d'animaux de mer, loqué, il mérite la flagellation, il a transgressé l'interdiction de croiser les animaux. La Gemara demande, Maitama, pourquoi? La Gemara répond, Amar Avada Barava Mishmedeula, Atia Leminehu, Leminehu Miyabasha. Nous l'apprenons d'une xerashava à partir du terme leminehu, employé concernant les poissons et concernant les animaux terrestres. En effet, la Torah dans Bereshit Aleph, concernant la création du monde, la Torah précise concernant la création des animaux, donc concernant les poissons le cinquième jour, que les animaux de la mer ont été créés par catégories différentes. Les catégories donc ont été séparées. Concernant la création des animaux, le sixième jour, la Torah aussi précise que les animaux ont été créés séparément par catégorie. Nous apprenons donc de là qu'il est interdit de les croiser. Cependant, comme le précise le Rashba des Psukim de Sefer Bereshit, nous n'apprenons que l'interdiction, mais qui sera interdit par un commandement positif. Alors par le moyen de cette Gzera Shava, nous apprenons que de la même manière que la Torah a interdit de croiser les animaux terrestres par un commandement négatif, comme nous l'avons appris précédemment, dans le daf précédent, nous dirons aussi que concernant les poissons, il y a le même commandement négatif. C'est pour cela donc que celui qui croise deux animaux de mer, il méritera la flagellation. Ba'e Rahva. Rahva a posé la question suivante. Hamanhig Be'iza Veshibuta Maou. Celui qui attelle une chèvre et un poisson à une charge et il les a conduits. A-t-il transgressé l'interdiction d'atteler deux animaux différents à une charge ou non? Or l'Agmara précise, Mi Amrinan Kivan De'iza Lonachid Bayam, puisque la chèvre ne peut pas descendre dans la mer, ne peut pas rentrer dans l'eau, Veshibuta Losalik Le'abasha, et le poisson ne peut pas monter sur terre. L'oklum avid, nous ne considérons pas qu'il les a attachés à une même charge, puisque finalement, ils se trouvent dans deux endroits différents. Odilma, ou bien est-ce que nous dirons, Hashta miha kamanhik, finalement, il arrive à tirer sa charge par le moyen de ces deux animaux différents, il a donc transgressé l'interdiction. En matkifla, Ravina a objecté sur cette question, et la meata, si c'est ainsi, Chiber chita veseora beado. Si une personne a pris dans sa main un grain de blé et un grain d'orge, il est interdit de les semer ensemble, il s'agit d'un mélange interdit. Vezara chita ba'aret, et il les a semés dans un morceau de terre qui se trouvait à cheval entre le territoire d'Eretz Israël et le territoire de l'extérieur d'Eretz Israël. Et il s'est trouvé que le grain de blé est tombé dans la partie qui se trouvait en Eretz Israël, ou se aura b'chutz la'aretz, et le grain d'orge est tombé dans la partie de ce terrain qui se trouvait à l'extérieur d'Eretz Israël. Bien qu'ils étaient très proches l'un de l'autre, ils avaient une distance de moins de 3 tfachim l'un de l'autre. Hachinami de Mechayev, est-ce que nous dirons qu'il a transgressé cette interdiction, alors que nous savons que l'interdiction de semer des mélanges n'existe qu'en Eretz Israël? Finalement donc, celui qui sème un mélange dans deux endroits différents n'a pas transgressé l'interdiction. On devrait dire aussi que celui qui attelle une charge à deux animaux qui se trouvent dans deux endroits différents, comme par exemple à une chèvre et à un poisson, on devrait dire que cette personne n'a pas transgressé cette interdiction. L'Agma répond, Hachi Ashta, voyons voir. Hatam, Eretz Makom Chiyuva, là-bas dans le cas de celui qui sème le grain de blé et le grain d'orge de manière à ce que le grain de blé se trouve en Eretz Israël et le grain d'orge en dehors d'Eretz Israël, nous dirons que cette personne n'a pas transgressé cette interdiction. Et cela parce que la terre d'Eretz Israël est l'endroit où cette interdiction existe. Alors que le territoire en dehors d'Eretz Israël n'est pas concerné par cette interdiction. Par contre, dans notre cas, dans les deux endroits, l'interdiction existe. C'est-à-dire, celui qui attellerait une charge à deux sortes de poissons différents, il aurait transgressé cette interdiction. De même, celui qui aurait attelé une charge à deux animaux différents sur terre, il aurait transgressé cette interdiction. Alors, il est possible aussi que même si ces animaux se trouvent l'un sur terre et l'autre en mer, quand même cette personne aurait aussi transgressé cette interdiction. Cette question reste sans réponse. Hadran alar shor shenagach et apara. Nous avons fini donc l'étude du cinquième perek.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Chers auditeurs, voici une traduction brève du sixième perek de Baba Kama, en vous souhaitant qu'elle puisse vous servir de base à une étude plus approfondie. Lecture effectuée par Léo Seba. Tout en haut du Daf Nun He Amud Bet, la Mishnah dit Hakones, celui qui fait entrer du Tibétail dans la dire, dans un enclos, venable, Fania Karaoui, et qui l'a fermé devant ce Tibétail Karaoui comme il faut. Comme il faut, ça veut dire de manière à résister aux intempéries habituelles. Yatsea Vedika, malgré tout, le petit bétail a pu sortir et endommager parce que, justement, il y a eu des intempéries inhabituelles. Et la Mishnah nous dit, dans ce cas-là, qu'on n'est pas tour, le propriétaire des animaux n'est pas tour, les dommages que son petit bétail a occasionné pour le bon son qu'il a fait ce qu'on attendait de lui. Le Naal de Fania Karaoui, si au contraire le propriétaire n'a pas fermé devant cet animal comme il fallait, et que l'animal, le petit bétail est sorti, ben ça veut dire qu'un chayav, le propriétaire, il doit indemniser les dommages. Nifshrotza balayla, si la brèche dans la clôture s'est perpétrée pendant la nuit, à cause des intempéries inhabituelles, et on avait dit au début de la Mishnah qu'on est dispensé, le propriétaire dispensé de payer les dommages. Mais évidemment, il est dispensé tout le temps, il n'a pas pris connaissance de la fuite des animaux. Mais dès qu'il a pris connaissance de la fuite des animaux, évidemment, il doit faire le nécessaire pour reprendre le contrôle de ces animaux. Alors, et s'il ne le fait pas, dans ce cas-là, pour la suite des événements, il est tenu pour responsable. Mais si c'est arrivé la nuit, il faut que ça va aller là. Si la brèche est perpétrée pendant la nuit, dans ce cas-là, il n'est pas tenu pour responsable même de la suite des événements, puisque il n'est pas censé courir après ses animaux pendant la nuit. Oje Peratsua l'estime, si ce sont des voleurs qui ont occasionné la brèche, la Mishnah dit Vatsa Vezika qu'à cause de l'action des voleurs, l'animal est sorti Vatsa Vezika, pas tout, propriétaire dispensé, parce que lui, il a fait ce qu'il fallait. Et les voleurs aussi sont dispensés de payer parce qu'ils ne sont pas propriétaires des animaux. Et ils n'ont pas fait sortir physiquement, activement des animaux de l'enclos. C'est considéré comme un grave nézek. Un grave nézek, c'est-à-dire un dommage provoqué ou occasionné indirectement, pour lequel la Torah ne prévoit pas d'indemnisation. Ça nécessite bien sûr une explication, un éclaircissement, ce principe-là que grave nézek est pas tout, mais ce n'est pas l'objet de une étude rapide comme c'est la nôtre aujourd'hui. Donc, ni le propriétaire ni les voleurs sont redevables du dommage. Par contre, Otsiwa l'estime, si les voleurs l'ont fait sortir activement, ont fait sortir le petit bétail activement de l'enclos, dans ce cas-là, l'estime, Khavim, les voleurs, bien qu'ils ne soient pas propriétaires du bétail, ils sont responsables du dommage puisqu'ils ont, eux, activement provoqué la fuite du bétail qui a ensuite brouté ou piquiné dans le jardin du voisin. Inira Bahama, si le propriétaire, maintenant un autre cas, si le propriétaire a laissé le petit bétail en plein soleil, bien que le petit bétail soit parqué dans un enclos parfaitement efficace, mais il est efficace pour toutes les intempéries, pour toutes les conditions normales, mais pas pour subir les assauts d'un petit bétail qui est excité par le soleil. Dans ce cas-là, le propriétaire est responsable, parce que ça ne sert à rien d'avoir un enclos qui résiste aux intempéries si le petit bétail il est surexcité par l'intensité du soleil, donc on est responsable. Ou si me sera le Khayashotam, si le propriétaire il a confié son petit bétail à des personnes irresponsables, comme le Khayash, la personne simple d'esprit, pas un conscient intellectuel de développer, Shoté, c'est une personne qui est déséquilibrée, Katan, un mineur, dans ce cas-là, toutes ces personnes responsables, elles ne peuvent pas assumer la responsabilité du petit bétail, donc ça veut dire le propriétaire il reste complètement responsable de dommages de son bétail. Mais Sarah le voyait, si par contre le berger à qui on a confié le bétail, il l'a lui-même confié à un apprenti, ou il a sous-traité avec un autre berger, mais Sarah le voyait à rien. Donc dans ce cas-là, Mirnas a voyé Tartav. Le deuxième berger, il endosse complètement la responsabilité de ce que le premier berger lui a confié. Et ce n'est pas considéré comme une faute professionnelle de s'être déchargé et d'avoir sous-traité, puisque c'est l'usage chez les bergers de faire ainsi. Donc chaque propriétaire il sait que lorsqu'il confie son bétail à un premier berger, il sait que ce berger-là il est susceptible de lui confier lui-même un sous-traitant ou à un apprenti. Nafla Ligina, maintenant revenons au dommage occasionné par le petit bétail qui s'est enfui et qui est en train d'envoyer dans le jardin du voisin, alors ça dépend. Nafla Ligina, s'il est tombé accidentellement de manière incontrôlable dans le jardin du voisin de Néhénit et qu'elle a brouté là-bas, dans ce cas-là, Mashalemet Mashnehnit, elle va rembourser uniquement le profit qu'elle a tiré de ce qu'elle a brouté. C'est-à-dire le profit, mais pas la concurrence de la valeur réelle de ce qu'elle a mangé. Imaginons qu'elle a mangé des salades qui valent très cher, elle sera taxée, on demandera au propriétaire de rembourser uniquement la valeur du fourrage que représente pour elle la salade, pas le prix de la salade, puisque c'est un cas de un cas de force majeure où le propriétaire n'est pas tenu pour responsable, alors il remboursera uniquement ce qu'il a profité. Par contre, il y a un par cas, si l'animal il est descendu tranquillement, naturellement, que derrière, que derrière comme ça d'habitude, sans avoir été projeté, bousculé à l'intérieur. Et donc c'est une faute de la part du propriétaire, une négligence. Dans ce cas-là, efficacité est endommagée, mais chez Zika, le propriétaire devra rembourser la totalité de ce qu'il a endommagé.
Maintenant, qu'est-ce que le met chez Zika? De quelle manière est-ce qu'on va rembourser le dommage de chaîne de Bregel? Dommage qu'un animal va faire lorsqu'il va brouter ou piétiner les champs du voisin. Chamin Betsea, on évalue en imaginant que l'animal il a bimé une CA, ça correspond à peu près à un volume de 8 litres. Donc s'il a abîmé pour un volume de 8 litres, 800 cm3 de salade ou de légumes, de fruits, ce dommage-là, on l'évalue botasadé. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer le prix des fruits ou des légumes dans un panier, parce que ça ne correspond pas à ce qui a été fait. C'est un dommage qui a été fait sur pied. Donc on va considérer que c'est le champ qui a été abîmé, pas les fruits qui ont été abîmés. Donc, kama et tayafa, combien est-ce que ce champ-là il valait avant le dommage? Le kama yafa, combien il vaut après le dommage? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui pense que quand les fruits ont encore besoin du champ, donc il est d'accord avec le premier avis, l'avis du Tanakama, mais quand les fruits sont déjà mûrs, après la période du Mourim, mais ça va mettre période du Mourim, il n'y a plus de raison de s'intéresser au champ, puisque maintenant les fruits n'ont plus rien à faire avec le champ, et il faut payer im CACA, si l'animal l'a abîmé, une CA, et donc il faudra rembourser une CA, et im sataim. S'il a abîmé deux CA, il paiera le prix de deux CA, ce qui semble évident, mais ce qu'on veut dire ici, c'est que le prix d'une grande quantité est toujours proportionnellement moins cher que le prix d'une petite quantité. Tanoura banan, la Gemara apporte une braïka. Ezehu karaoui, bezehu shokaoui. Qu'est-ce qu'on appelle dans la Mishnah karaoui? Une clôture qui est faite convenablement. La Braïta explique des lettres chez Yochola la mode Bouroach Metsuya, c'est une porte par exemple qui peut résister aux assauts du vent courant habituel. Zehu karaoui, shenar Yochola la mode Bouroach Metsuya, si au contraire la porte ou la clôture ne peut pas résister aux intempéries habituelles. Zehu shelo karaoui, c'est ce qu'on appelle une clôture qui n'est pas convenable. Amar Arabi Mani Barbatis. Rabbi Mani Bar Patish, il a dit, au regard de la précision que la Braïta vient nous apporter, Mantana, qui c'est celui qui a enseigné dans la Mishnah que Mouad, un animal qui est habitué à faire des dommages, ça suffit de s'aguiler, ça suffit Mishmira Pruta, de prendre des précautions limitées. Limitées, ça veut dire tenir compte uniquement des éventualités courantes. Rabbi Udaï, c'est Rabbi Udaï l'auteur de cet avis, d'Itnan, comme on voit dans une Mishnah précédemment, dans Kashro Be'alav Mosira. Si le propriétaire d'un taureau il l'a attaché avec ses rênes, une corde, ou bien Al Fanav Karaoui, si il a fermé devant le taureau comme il faut, on a déjà dit que comme il faut, ça veut dire en tenant compte uniquement des éventualités courantes. Il y a de ça physique. Avec tout le taureau, il a pu sortir parce qu'il est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Et Hatam Vechad Mouad Chayav, Rabbi Meir lui dit qu'on reste responsable des exactions de son animal, même si on a paré aux éventualités courantes. Donc apparemment, Rabbi Meir ne peut pas être l'auteur de notre Mishnah, puisqu'on a déjà vu que notre Mishnah, elle ne demande pas plus que de parer aux éventualités courantes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Tam Chayav. Je suis d'accord avec Rabbi Meir que la participation du propriétaire de Khatinezek à la moitié du dommage, on reste responsable, on reste redevable de la moitié du dommage, même lorsqu'on a pris des précautions minimum, limitées. Puisque le Khatinezek, c'est juste une forme de participation avec le Nizak, avec l'endommagé, la moitié du dommage. Donc même si on a fait un minimum de précautions, on continuera à être redevable de cette participation. Par contre, le Mouad qui lui doit payer la totalité du dommage parce qu'il est fautif, parce qu'il est responsable, tour. Dès que le propriétaire a pris des précautions minimum, il est déjà dispensé de payer la totalité du dommage. Chez Neymar, Velo, Ishmer, Balav, Kolbasoudi, le Mouad paye parce que le propriétaire n'a pas fait le nécessaire pour le préserver. Un chameau osé. Et là, lorsqu'on a apporté les précautions suffisantes pour parer aux éventualités courantes, on peut dire qu'on a fait la garde suffisante. Rabbi Eliezer Omer, un troisième avis, lui dit que El Lo Shmira El Asakim, concernant le taureau qui est Mouad, qui est un récidiviste, qui est habitué à faire du dommage, celui-là, même si on prend des précautions qui sont de nature à prévoir, à neutraliser même les éventualités exceptionnelles, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la seule solution radicale pour un récidiviste qui est habitué à endommager, c'est le sakin, c'est lui faire la shrita. Donc, sur les trois avis exposés dans cette Mishnah, le seul qui corresponde à notre Mishnah, c'est celui de Rabbi Yehuda. C'est là la conclusion de Rabbi Mani Bar Patish. Maintenant, la Gemara refute cette conclusion. Elle dit, « Afiloute ma Rabbi Meir. » Même si tu veux dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui, on l'a vu, lui dit que un récidiviste, un animal qui est habitué à faire un dommage, on ne peut pas se suffire de parer aux éventualités courantes. Il faut se prémunir aussi des éventualités exceptionnelles. Ça, c'est seulement pour le cas du Keren, où l'animal il a fait un dommage par agressivité, un coup de corne, un coup de pied. Pour ça, quand c'est un récidiviste, alors on est tenu d'apporter une réponse plus appropriée à ces exactions. Mais Shen Veregel, le dommage de notre Mishnah ne parle pas de Keren, ne parle de Shen Veregel, c'est un dommage que l'animal y fait dans le courant naturel de sa vie. C'est-à-dire, vous le laissez sans surveillance, il va brouter, c'est pas une forme d'agressivité, il va piétiner, il va traverser le champ du voisin, il va piétiner des salades. Pour ça, Shani, Shen Veregel, Rabbi Meir pourrait penser que c'est différent. Et que là, on peut se suffire de parer aux éventualités courantes. De la Torah, mais état de Shmiratan. Parce qu'on va voir que la Torah, elle a limité la responsabilité des propriétaires concernant les dommages que leurs animaux ils peuvent commettre dans Shen Veregel. De Amar Bilazar. Comme on l'a dit à Bilazar, Amré, là, il y en a qui disent que Bemat Nidatanak, ça figure même dans les conclusions d'une Braïta. Arba Advarim. Il y a quatre choses pour lesquelles la Torah miata v'shmiratan. La Torah, elle a limité la responsabilité des propriétaires. Ve'ilohen. Et voici. Bor, Esh, Shen, Varegel. On va les reprendre l'un après l'autre. Bor. Le puits, une personne a creusé dans Shuta Rabim, dans Shuta Yachid, et que ce puits-là, il a occasionné ensuite un dommage. Quelqu'un est tombé dedans. Les animaux se sont abîmés. Donc, le propriétaire, il se trouve, enfin, le propriétaire, celui qui est le responsable, celui qui a fait ce trou-là, il doit assumer les dommages que son trou il a fait.
Mais à ce sujet, la Torah dit qu'il yiftah nishbor, lorsqu'un homme il l'ouvrira, il découvrira un puits, ou qui yichere ishbor, lorsqu'il causera, venu yichasenu, et qu'il l'a pas recouvert. On voit que la Torah nous demande juste de le recouvrir, akisahu. Donc dès qu'on l'a recouvert, pas tout. Ce qu'on dit au proche, c'est de l'avoir creusé ou découvert, n'a pas avoir recouvert. Mais on ne nous demande pas de boucher le trou, ce qui aurait été la solution radicale. On voit donc que la Torah, elle ne nous demande pas d'adopter une précaution qui nous met à l'abri de toutes les éventualités, mais c'est suffisant de recouvrir. De même, Esh, directive, comme c'est écrit dans la Torah, Shalem Shalem, il paiera à m'avrir l'incendiaire, celui qui a mis le feu, Tabera. On voit que la Torah ici, aussi, elle nous rend responsables seulement si on a fait quelque chose qui s'apparente à un incendiaire, à m'avrir, à des à un vide que elle m'avrir, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui s'apparente à un incendiaire. Mais si on a pris des précautions, certes pas exceptionnelles, pas radicales, mais on a pris des précautions minimum, on ne peut plus parler d'un incendiaire. On voit donc que pour le feu également, la Torah ne demande pas plus que de prendre des précautions minimum. Chêne. Concernant le dommage que l'animal il va faire en brouté dans le champ du voisin, Dirtiv écrit aussi là-bas « Ubi'er b'zitéacher ». Ubi'er, ça veut dire « il a fait brouter ». Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui prend son animal et qui va le faire brouter? Ça, c'est Nézek Adam, c'est Nézek Begoufo, c'est pas Chêne. Chêne, c'est lorsque l'animal y va de son propre chef brouter. Alors pourquoi est-ce qu'on la Torah nous dit ici, ou Bi'er, Bizdacher, il a fait brouter, à David que N ou Bi'er. On est responsable seulement lorsque notre attitude, elle correspond à quelque chose près, à quelqu'un qui va faire brouter, c'est-à-dire il était négligent. S'il a pris des précautions minimum, on ne peut plus dire qu'il a fait brouter dans le champ du voisin. Régel. Régel également, donc c'est le dommage que l'animal il va faire en piétinant le champ du voisin si on le laisse en surveillance. Là-bas, c'est écrit aussi, Veshila, il a envoyé son troupeau. Est-ce que c'est ça, les circonstances de Régel? Régel, c'est si on envoie physiquement son troupeau piétiner le champ du voisin, c'est un Nézek Adam. Ça n'a rien à voir avec Régel. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit Veshila, il a envoyé? C'est pour nous faire comprendre qu'on est responsable seulement si on a fait quelque chose à David Ken Veshila. Juste qu'il a fait quelque chose qui s'apparente à quelqu'un qui envoie son troupeau. C'est-à-dire qu'il a fait une négligence. Mais dès que il a fait c'est nécessaire pour parer aux éventualités courantes, alors on est dispensé parce qu'on ne peut plus dire de lui il a envoyé son troupeau. Le Tania. Maintenant, la Gemara apporte une Braïta qui vient préciser le sens de Shilach Uber de la Torah pour confirmer que c'est bien Chen Veregel. Donc, le Shilach Zéa Regel. Pour ce qui est de Shilach, on comprend que c'est le dommage que l'animal y va faire en piétinant le champ du voisin parce que on a retrouvé cette expression dans Yeshaya, c'est écrit Vren ou Omer dans Yeshaya, Meshal Vre Regel Ashov Achamor. Ce qui envoie piétiner le taureau et l'âne. Le contexte du pasouk, c'est un moment de bracha pour les bénis Israël où il y aura une telle abondance qu'on pourra laisser envoyer les animaux piétiner sans que ça porte atteinte à l'abondance et à la qualité de la vie. En tout cas, on voit que l'expression Chaléar, c'est lié avec Régel. Ou Bi'er, c'est Hachène. L'expression de la Torah Bi'er, ça correspond au dommage que le bétail va faire quand il va brouter le champ du voisin. Ren ou Omer, ainsi qu'on peut le voir dans la rime, où lorsqu'on a annoncé la funeste prophétie concernant Yerobaam qui avait fait introduire la voie d'Azara dans Israël, on lui a dit que sa maison elle sera déracinée au même
degré que Kachay et Vayar Galal, que comme le troupeau, comme Adam, Galal c'est Adam, la Galane qu'on découvre et qu'on couvre et qu'on redécouvre, Kachay et Vayar Galal, comme Adam, elle, des animaux, elle broute. Yevaya, elle broute un champ à tout mot jusqu'à la racine, jusqu'à ce qu'il ne reste rien dans le champ, ainsi il en sera de la maison du Rovam. En tout cas, donc, il ressort que le terme Yevaya, c'est lié avec le fait de brouter. Kama David Ken Veshilah Yevaya. Donc là, Gemara reprend son raisonnement. Elle dit la raison, donc, pour laquelle la Torah nous tient pour responsable, c'est parce qu'on a fait quelque chose qui s'apparente à Veshilach pour Régel. Il a envoyé, il a fait quelque chose de, au moins une négligence, quelque chose qui s'apparente à une volonté de nuire. Ou bien, il a fait brouter, il a fait quelque chose qui ressemble à faire brouter, c'est-à-dire il a fait une négligence. Ha, l'eau a vide. S'il n'a pas fait de négligence, c'est-à-dire qu'il a apporté les précautions minimum pour parer aux éventualités courantes, l'eau, il ne sera pas à tenir pour responsable. Amar Rabba. Maintenant, Rabba, il dit que Matnitin, notre Mishnah, en fait, Nami Dika. Sa formulation, elle est plus précise si on admet que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. Dekatani. Puisqu'il enseigne Tson, le cas de figure de notre Mishnah, avec le petit bétail. Mirde, puisque Beshor Kaaskinan, avec le taureau, on a toujours exposé les cas Veati. On est allé jusqu'à présent dans tout Tamaseret Baba Kama, on a exposé tous les cas de figure avec un taureau. Nitne Shor, ici aussi, il aurait dû enseigner le cas de figure de notre Mishnah avec le taureau. Maishna, quelle différence des Katanitson? Quelle différence que ici, particulièrement, il a pris pour prototype, pour exemple de son cas de figure, il a pris le petit bétail. Lav, n'est-ce pas? Mishum da Torah miyata bishmiratan. N'est-ce pas que c'est pour nous enseigner que ici, on parle de Shen Vregel. Parce que tout le monde sait que le petit bétail, il n'a pas des attitudes agressives. Le problème principal du petit bétail, c'est qu'il s'échappe, il va brouter, il va piétiner. Donc c'est le prototype de Chenevregel. Et certainement que c'est ça ce qui a motivé le Tana ici à parler du Tson, à parler du petit bétail, pour nous dire que le dommage qui est arrivé lorsque l'animal est sorti, c'était pas Keren, mais c'était Shen Vregel. La Mishum des Kan Keren l'Oktiva. N'est-ce pas? Parce que concernant le petit bétail, jamais on parle de Keren, parce que le petit bétail n'est pas agressif. L'Oktiva va. Par contre, Shen Vregel ou Dektiva. Par contre, le petit bétail, il est directement concerné lorsqu'on parle de Shen Vregel. Kamashmalan. Et le Tana, il a voulu pas nous enseigner les chaînes Vregel, que ici, après qu'on ait fait une clôture, un karaoui, c'est-à-dire limité au minimum, l'animal est sorti. Et qu'est-ce qu'il a perpétré comme dommage? Chaînes Vregel. Et pour chaînes Vregel, seulement pour chaînes Vregel, la Shmira limitée, les précautions limitées, elle est suffisante pour dégager la responsabilité du propriétaire. Que si on avait parlé du taureau, alors le taureau, son prototype de dommage, c'est plutôt le Keren, et pas le Keren, et ça ne serait pas suffi de se contenter d'une Shmira, d'une protection limitée. Shmar Mina, Agmara conclut que effectivement, on peut comprendre de ce diouk, de cette analyse qu'on vient de faire, que la Mishnah, elle va plutôt comme Rabbi Meir, et pas comme Rabbi Mani Bar Padish l'avait dit plus haut, que la Mishnah elle est seulement comme Rabbi Yuda. Nous allons commencer maintenant l'étude du Daf Nun Vav Amud Aleph. J'espère que cette lecture rapide vous servira pour une étude plus approfondie. Tanya, une braïta, s'enseigne, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit, Arba Advarim, il y a quatre choses. Haotseotam, celui qui les fait, Patour, Miniadam, il est dispensé devant les tribunaux humains, Vrayev, Bidine Shamaim, Bidine Shamaim, il porte une responsabilité morale et il doit, s'il veut être en accord avec le bon Dieu, il doit indemniser la victime. Veloen, les voici. Aporetz, Gader, celui qui fracture une clôture, Bifne Bematravero devant l'animal de son prochain, que l'animal est sorti, il a endommagé, c'est un dommage indirect, et il a une responsabilité morale, mais pas au point d'être condamnable par les tribunaux humains. Vakofev Kamato Shachavero, celui qui fait pencher, qui couche, Kamato, une récolte sur pied chez le rabbi de son voisin, Bifne Adlika devant un feu et qu'il a contribué à l'enflammer, mais seulement il a eu un rôle accessoire dans ce dommage, comme on va expliquer plus tard dans la Gemara. Alors aussi il est Khayav Bide Shamaim, seulement Bidanam devant le tribunal humain, il n'est rien Khayav. Va Socher Aed Shekher, le troisième cas, celui qui paye des témoins pour mensonger, bien sûr, la haïd, pour venir témoigner contre son prochain. Alors, il y a des circonstances où il est, qu'on va expliquer plus tard dans la Gemara, où il est chayav seulement en bidé shamaïm. Vayodia edut la chavero, celui qui connaît, il peut témoigner pour en faveur de son prochain. Veinome idlo, il ne va pas lui témoigner, il porte une responsabilité morale du préjudice qui lui est fait, mais pas légal, puisqu'il ne fait rien de direct comme préjudice. Et Amar Mor, l'Agma reprend chacun des cas pour les développer. Aporetz Gader, celui qui fracture une barrière, Bifne Bemat Ravero, est devant l'animal de son prochain. Alors l'Agma pose la question, Echidami, de quoi ça parle? Il dit, si on va dire, à côté le bari, c'était un mur qui était sain et solide, Bedine Adam Nami Nihayev, il devrait être Hayav aussi devant les tribunaux humains, ne serait-ce que pour le mur. Donc la Gemara dit, elle a. Donc on est obligé de dire, le côté elle, Raoua. Il faut dire que c'était un mur qui, de toute façon, il était en mauvais état, était branlant. Et donc il devait être même détruit. On peut dire à la limite, il a voulu rendre service à son camarade en faisant ébouler le mur, mais d'un autre côté, il a permis à l'animal qui était parqué derrière ce mur de sortir et de nuire. Et ça, c'est considéré comme un dommage indirect pour lequel on a une responsabilité morale, mais on ne peut pas être condamné devant les tribunaux. Amar Mor.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.